Je suis, depuis ces deux dernières semaines, de lire la vie de Salomon dans Un Roi. J'étais attiré par son travail initial, son désir, l'intensité avec laquelle le roi Salomon a construit le temple. Son père l'avait dirigé à le faire. Il s'est enveloppé complètement dans cette tâche de faire du mieux qu'il pouvait, le détail et l'effort, et tout cela pour la gloire de Dieu, pour créer un temple que Salomon a dit, aussi beau que soit ce temple, ça n'est pas comparable à toi. Tu demeures dans l'éternité, tu demeures dans l'univers, dans tout ce que tu as créé. Je pense à nos étudiants de l'Institut du Fondement, la promotion de 2020, qui vont sortir maintenant pour préparer leur vie. Félicitations à vous tous, c'est une belle classe. Nous avons beaucoup apprécié la possibilité de travailler avec vous, mais vous sortez maintenant pour planifier votre vie. Et vous devez faire des projets et des plans, et que vous les mettez en place déjà, à travers la vie, des étapes que vous devez prendre. Je crois que trois personnes dans cette promotion, trois personnes vont se marier à différentes personnes. Ils planifient vraiment leur vie. Quand est-ce que les enfants pourront arriver? Peut-être qu'ils prévoient ou projettent ça dans l'avenir. Leur vie continue. Dans les dernières quelques semaines, quand il a fait beau, en fait, ça tombe en trombe maintenant. Je l'entends dehors, mais nous avons eu du beau temps cette semaine. J'ai eu l'occasion de travailler un peu dans le jardin. Il y a quelques préparations autour de la maison. Nous essayons d'embellir la maison, le jardin. Et il a fallu se concentrer là-dessus, et c'est rare pour moi. Moi, je tonds le gazon, j'enlève les mauvaises herbes, je mets dans le sac et c'est fini. Mais d'embellir le jardin, ça a pris plus de concentration que d'habitude. À chaque fois que je fais des choses comme cela, je pense au projet que nous devons... Quand je dois me concentrer comme ça, je pense au passage dans Luc chapitre 12, verset 15. Et Christ commence à parler d'un individu, de dire à son frère de partager l'héritage. Et Christ donne sa réponse, Luc chapitre 12, verset 15 jusqu'au verset 21. Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance ?» Vous et moi, nous le savons, nous savons. Et nous qui sommes ici, qui vivons dans ce pays béni, les États-Unis, je sais que des personnes dans d'autres pays, vont m'entendre aujourd'hui aussi, mais je parle en particulier à ceux qui sont bénis de vivre dans un pays nanti, qui ont reçu des bénédictions du droit d'aînesse. Il dit, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance? Et il leur dit cette parabole que nous connaissons bien. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte ?»« Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, mon pote, t'as bien fait, t'as vraiment bien fait. » T'as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit, même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. J'ai intitulé le message d'aujourd'hui « Que ton royaume vienne, Vraiment? Que ton royaume vienne. Vraiment? Je voudrais que nous considérions que nous habitions ici dans le nord du Texas ou aux États-Unis ou de par le monde. Je voudrais que nous regardions au plus profond de nous-mêmes pour demander jusqu'à quel point est-ce que je désire que le royaume de Dieu vienne. Jusqu'à quel point est-ce que je désire que le royaume de Dieu vienne? Est-ce que les fruits de ce que je pense, nous pensons, ce que nous disons, ce que nous faisons, est-ce que ces fruits reflètent combien nous désirons que son Fils revienne? Vraiment? Est-ce qu'on peut répondre dans l'affirmatif? Que montrent nos fruits à Dieu? Un homme riche démontrait, il a démontré par ses fruits là où se trouvaient ses désirs. Évidemment, nous devons planifier pour la vie. Va vers la fourmi paresseuse, comme nous le dit Proverbe chapitre 6. Nous devons passer par ce processus, mais les projets et les espoirs et les rêves peuvent prendre les devants comparé à ce qui devrait être à la première place dans nos vies, le désir de voir arriver le royaume de Dieu. Le COVID-19 s'est attaqué au monde. Même notre désir que les choses reviennent à la normale, je ne sais pas si vous y avez pensé, même notre désir que les choses reviennent à la normale pourrait produire, si on les regarde sous un mauvais angle, on pourrait finir par dire que ton royaume vienne, mais pas encore. Est-ce que c'est possible que ce soit notre attitude? Est-ce que cette pensée s'est infiltrée dans nos esprits? Que ton royaume vienne, mais pas encore. Moi, je veux retrouver ma vie. Il y a pas mal d'informations dans les actualités en ligne concernant aux États-Unis, les États, les comtés, les villes doivent faire avant que tout ne s'effondre financièrement. Les gens disent que pour retrouver la normale, ce que nous devons faire au niveau de l'État, de la communauté, pour que les choses recommencent, relancer le commerce. Relancer le commerce pour nous protéger contre le virus. Pour ralentir le virus, pour retourner à l'Église, pour retrouver nos vies. Pensez à cette déclaration. Je veux retrouver ma vie. Quelle partie de votre réflexion est motivée, votre réflexion ou ma réflexion, est motivée par ce concept? En ce qui concerne les décisions qui sont prises par les autorités, les décisions qui sont hors notre contrôle. Jusqu'à quel point est-ce que cette pensée, quand nous nous examinons, est-ce que cette pensée a pris les devants? Je pense que nous comprenons cela, mes frères. Mais quand même, cette mentalité, je veux retrouver ma vie dans ce genre de situation, si nous ne faisons pas attention, peut remplacer ce qui devrait être notre motivation principale. Les deux choses que nous devrions penser, que ton royaume vienne. Je veux que ton royaume vienne. Je prie chaque jour pour ton royaume et que ta volonté se fasse, soit faite. Ce sont deux grandes motivations que Jésus a dit que nous devons avoir dans notre relation avec Dieu. Cela passe devant toute autre chose. Matthieu chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu ». Nous savons cela, nous comprenons cela, mais est-ce que nous le cherchons premièrement et sa justice? Monsieur Franks, dans les communications, a parlé des désirs et les émotions. Monsieur Kylo a parlé également. Le désir, les émotions qui sont là. Des situations comme la nôtre actuellement pour le peuple de Dieu peut faire remonter à la surface des désirs et des motivations qui sont là et que nous ignorions. Qu'en est-il de cette mentalité « je veux retrouver ma vie » Qu'est-ce qui vous motive maintenant? Qu'est-ce qui nous motive dans ce que nous avons examiné profondément, notre fort intérieur? Il y avait un commentaire d'un membre cette semaine qui m'a dit « toute cette expérience de COVID m'a forcé à ralentir ». Et j'ai pris ce temps, je dois profiter de ce temps pour l'utiliser de façon utile. J'ai pu prendre du recul, de réfléchir, de réfléchir à ce qui est vraiment important dans la vie. À quel point cette vie est temporaire? À quel point nous avons besoin du royaume de Dieu? De prendre recul, de lire, de réfléchir. Alors, comment voyons-nous la pandémie mondiale actuelle et ses effets sur la vie? Est-ce que nous le voyons à court terme, l'impact à court terme? Est-ce que nous le voyons, l'impact à long terme? Comment voyons-nous son impact sur le pays dans lequel nous vivons, notre État, la communauté locale, l'Église, notre incapacité à nous rencontrer? Comment est-ce que nous le voyons concernant notre propre bien-être? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous donne de la joie? Nous devons penser à tout cela. Comment est-ce que ton règne vienne? Quelque chose que nous devons prier régulièrement et avec ferveur. Comment est-ce que cela entre dans notre état d'esprit en traversant cette épreuve? Ce sont des questions importantes. Nous sommes chair et sang. Nous avons des besoins. Nous connaissons les besoins humains, selon Maslow. Et nous avons ces différents besoins que nous essayons de combler. Mais nous devons aussi avoir l'esprit de Dieu, l'optique de Dieu. L'esprit et l'optique de Dieu. Alors, je me pose la question, et je me suis posé la question fréquemment à travers cette épreuve, jusqu'à quel point est-ce que je veux que le royaume de Dieu vienne? Et jusqu'à quel point est-ce que cela motive ma réflexion, ma pensée? Ce que nous traversons actuellement, et mon approche envers Dieu et envers mon voisin. Prenons maintenant 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3 nous explique quelque chose, un élément ici que j'ai toujours trouvé fascinant. Tout dans cette vie, il dit, va prendre fin. Et il y a quelque chose de nouveau qui va venir après. Et c'est une nouveauté totale quand Dieu le Père va descendre, habiter avec ses enfants spirituels après le jugement du grand trône blanc. Et quand même la mort sera jetée dans les temps de feu. Mais en parlant à propos de tout ceci, nous connaissons ce passage également, mais c'est très important. 2 Pierre chapitre 3, verset 11, il dit, « Puisque tout cela t'envoie de dissolution, tout cela va être cassé et disparaître. Combien votre conduite et votre piété doivent être saintes? Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Quel genre de personne est-ce que nous devrions être? Dans notre conduite, nous cherchons et nous hâtons l'avènement du jour de Dieu. Parce que qu'est-ce qui va arriver finalement? Jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront, les éléments embrassés se fondront. Mais nous attendons, le peuple de Dieu, qui est nous qui avons la vérité de Dieu, qui prions que ton royaume vienne, et nous cherchons premièrement ce royaume et sa justice. Nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Ça, c'est notre motivation. Tout le reste doit être subordonné à cela. Rien d'autre ne peut passer devant. Et c'est difficile de faire ça. Et c'est difficile quand nous devons faire face à des situations comme ce que nous avons maintenant. C'est très incommode, cette situation. Ça menace la vie, parfois. C'est difficile. C'est difficile de garder cet état d'esprit. Dans une autre traduction, il dit, nous devrions attendre avec impatience la venue du jour de Dieu et jouer notre rôle pour hâter ce jour. Comment est-ce que nous jouons notre rôle pour hâter ce jour? Nous pensons à cela. Pourquoi ça doit venir? Nous cherchons. Nous savons ceci, mais écoutez, ceci est très important. Quand nous pensons à ce qui se passe dans notre psychisme et les difficultés que nous voyons autour du monde, nous savons que pour que cela arrive, l'autre, le reste, ce monde, les gouvernements de ce monde, tout ce qui nous entoure, tout cela doit partir, doit disparaître. Nous sommes des ambassadeurs d'un royaume qui vient, que nous désirons plus que toute autre chose. Nous savons que pour qu'il vienne, l'autre monde doit disparaître. Est-ce que nous anticipons cela? Est-ce que nous voulons vraiment que cela se passe? Jusqu'à ça, quelle force dans nos pensées? Ou est-ce que nous sommes distraits parce que je dois faire ceci, je dois faire cela dans cette communauté? Est-ce que nous gardons ces premières priorités au-devant de nos esprits? Comment est-ce que nous voyons cela dans nos vies? Comment voyons-nous cela en tant que parents dans la vie de nos enfants quand nous enseignons le contraste entre les différentes façons de vivre? Est-ce que les enfants peuvent comprendre cela à leur niveau? Est-ce qu'ils sont capables de le faire? Je suis convaincu qu'ils sont capables de le faire. Dans la mesure où nous, en tant que parents, nous le vivons et nous le pensons aussi, et nous parlons avec eux à leur niveau pour qu'ils puissent le comprendre. Prenons maintenant Matthieu 28. Nous prenons des passages assez familiers. J'ai discuté avec quelqu'un cette semaine qui se prépare au baptême. Il m'a donné la permission de partager ceci. Je voulais le partager avec vous. Quand nous nous préparons au baptême, des ministres, chaque pasteur a une approche un petit peu différente. Mais à un moment donné ou à un autre, le pasteur qui donne ses conseils, on regarde Hébreux chapitre 11, verset 1. La foi, nous n'avons pas vu Dieu, nous n'avons pas vu Jésus-Christ, mais nous reconnaissons qu'ils sont là. Ça, c'est une partie de la foi, de saisir la réalité de qui sont ces deux grands êtres. Et deuxièmement, nous lisons le verset 6 où il est question « Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu ». Comment est-ce que nous savons qu'il y a un Dieu? Nous devons croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, en discutant avec cet individu, en se préparant pour le baptême, je pose la question, moi, comment est-ce que vous savez dans votre esprit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent? Et s'ils luttent ou s'ils ne sont pas clairs là-dessus, ben nous prenons le temps de l'expliquer. Nous leur demandons d'aller profondément, de regarder ça de plusieurs directions. Comment est-ce qu'ils peuvent discerner et être convaincus qu'il y a un Dieu? Et il m'a dit, Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. J'ai grandi dans l'Église. J'ai vu des choses tomber en place pour moi qui n'auraient pas dû tomber en place pour moi. Et il a parlé de plusieurs exemples en particulier, et j'étais d'accord, ça n'aurait pas dû fonctionner comme cela. Mais Dieu m'a béni. Il a dit, je l'ai vu être patient et miséricordieux avec moi, alors même que je me débattais avec des choses et que je me trompais. Je veux lui consacrer ma vie et me consacrer à son mode de vie. Et quand nous avons... Ceux qui ont grandi dans l'Église, parfois quand ils sortent dans le monde et il y a l'école des coups durs, et puis ils se disent, mais ça c'est dur ici. Dieu peut nous appeler de partout, mais peu importe, nous arrivons au point où nous reconnaissons qu'il y a cet être qui est au-dessus de tout, qui nous guide, qui nous dirige et qui nous guide là où il veut nous mener, mais il veut notre concentration totale. Il veut que nous concentrions sur la vraie raison d'être. La raison d'être. Comme cela a été mentionné dans la sermonnette. Regardons maintenant Matthieu chapitre 28. Nous commençons souvent au verset 19, mais moi je veux commencer au verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Pensez à ça. Il dit à ses disciples, alors qu'ils vont partir, compléter la grande mission, comme l'Église du Nouveau Testament commence, comme cela nous est rappelé par la fête de la Pentecôte, il dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et moi, Je vous donne cet ordre maintenant. Nous, dans la même ligne de ses disciples, les portes du séjour des morts ne vont pas prévaloir contre l'Église. Nous travaillons pour cet être qui dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Tout. Maintenant, vous travaillez pour moi. Où est notre point de mire? Puis il dit, verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et voici, je pense que quand il dit ceci, j'ai pensé à cet individu avec qui j'ai donné des conseils. « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Mais concentrez-vous là où il faut. Ne permettez pas que votre ne soyez pas emporté par tout ce qui se passe autour de vous. Et si vous le faites, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Est-ce que c'est le cas pour nous? Là, dans notre fort intérieur, ce qui nous donne de la joie, ce qui nous donne un sens de dans la vie, nous devons vraiment réfléchir à ce sujet. C'est cet être vers qui nous avons été amenés. Et nous devons nous concentrer sur ce qu'il dit. Maintenant, je vais me mêler un petit peu dans des affaires des autres. Nous pouvons tomber dans un certain état d'esprit. Oui, je sais que notre pays aux États-Unis est polarisé. Et moi, j'ai mes opinions. Oui, je sais que le christianisme moderne est séduit, tout comme l'islam, l'hindouisme, le shintoïsme, l'animisme. Oui, je sais que les pays communistes vivent dans la pauvreté morale, sans mœurs bibliques fondamentales. Oui, je sais qu'en discutant avec un individu qui travaille en Alaska, il pourrait dire, je sais qu'une grande partie de la population amérindienne en Alaska continue à répéter le cycle d'une existence désespérée, vivant des vies sans but. Et l'individu a dit, on voit comment cela s'est étendu, et on voit comment ça se passe et quelles sont les conséquences. Et on ressent de la douleur pour eux, pour les personnes qui passent à travers ça. Oui, je sais que de nombreux pays africains vivent sous des despotes, luttant pour se nourrir pendant que ceux qui sont au pouvoir accumulent tout. Oui, je sais que l'Europe a grandi dans son impiété. Oui, je sais que l'esclavage des êtres humains existe sous notre nez. Oui, je sais que les cartels de la drogue règnent sans pitié dans certaines régions d'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Oui, je sais qu'une grande partie du monde vit dans une dépravation physique, financière et spirituelle. Mais moi, je veux retrouver ma vie. Je veux retrouver ma vie. Je suis fatigué, je suis las de ce COVID-19. Je veux que les choses redeviennent normales. 1 Timothée chapitre 2, c'est une chose pour laquelle nous devrions prier. 1 Timothée 2, en considérant que nous sommes ambassadeurs dans ce monde, nous vivons comme dans un pays étranger. 1 Timothée chapitre 2 dit, verset 1, dans Timothée 2, verset 1, « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. » Pourquoi? À quelle fin? Est-ce que c'est mauvais de prier pour ces gens en cherchant le royaume de Dieu? Non, évidemment, nous devons prier pour cela. Nous prions souvent cela, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. J'apprécie beaucoup l'occasion de vivre dans un pays qui, présentement, cela arrive. Nous essayons de ne pas le prendre pour acquis. Verset 3, « Car cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. » Mais même le désir de voir l'accomplissement de ce passage peut prendre les devants devant Matthieu chapitre 6, verset 33. Je le vois menacé de s'installer dans ma vie à certains moments, quand nous sommes stressés, quand il y a des défis. Je veux que le royaume de Dieu vienne, mais je veux autre chose aussi. Je veux que les choses redeviennent normales et que je puisse mener une belle vie d'abord, avant d'avancer. Nous avons connu des stressés régulièrement dans la vie. Qui nous ont poussés à chercher à vraiment nous concentrer sur ce qui est vraiment important. C'est difficile. Il y a des défis que nous devons affronter. Regardons Actes chapitre 14. Je vois cette attitude-là parfois s'immiscer dans les esprits des frères et sœurs, ce désir de que la vie redevienne normale, de retrouver ma vie. Ça peut passer devant notre désir de voir venir le royaume de Dieu. Actes chapitre 14, verset 19. Paul est à Lystre et il guérit quelqu'un et on veut l'adorer comme Zeus. Barnabas était Zeus et Paul était Hermès parce qu'il était le porte-parole. Et il leur dit non, c'est pas vrai, c'est pas juste, c'est pas Zeus ou Hermès qui les a guéris. Voici la réalité. Verset 19. Il fait ceci et il pouvait à peine empêcher les gens de sacrifier des choses. Alors survint d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville pensant qu'il était mort. Je ne peux pas imaginer. Dieu vient d'intervenir. Imaginez que c'était vous. Vous étiez l'outil utilisé par Dieu pour guérir quelqu'un. Et puis, peu de temps après, on vous lapide et on vous traîne hors de la ville. Jusqu'au point où ils pensent que vous êtes mort. Alors, on vous laisse. Mais, verset 20, les disciples l'ayant entouré, il se leva. Et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Verset 21. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre. Ils reviennent là où on l'avait lapidé, à Lystre. Ensuite à Icône et à Antioche. Et c'est de là que sont venus les Juifs qui l'ont fait lapider. Verset 22, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ça, c'est la vérité, mes frères et sœurs. Ça peut être lapidation, ça peut être un autre défi. Mais c'est la nature de notre démarche chrétienne. Nous prions pour avoir une vie paisible et tranquille. Mais la réalité, en même temps, c'est que ce n'est pas beaucoup de tribulations qui nous font entrer dans le royaume de Dieu. Je ne suis pas arrivé, moi, encore, mais là où ce que je veux souligner, c'est que le désir pour son royaume et sa justice doit être si fort en nous que nous pouvons dire, où est-ce que vous en êtes dans ce processus? Est-ce que j'en suis, moi, dans ce processus? Dieu veut savoir. Il veut savoir où est notre concentration. Prenons maintenant Jacques chapitre 4. Nous allons lire un assez long passage. Jacques chapitre 4. Jacques écrit à des frères et sœurs et il s'adresse à ce désir interne qui peut monter à la surface en nous, qui est contraire à la sagesse qui vient d'en haut. C'est une sagesse qui vient d'en bas. Est-ce que cela nous arrive parfois? Nous allons passer un peu de temps ici dans Jacques. Jacques l'a reconnu avec ceux qui étaient sous sa garde. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles? Verset 1, parmi vous, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Quelles sont les passions qui combattent dans nos membres? Quels sont les désirs qui nous motivent? Qu'est-ce qui est critique? Est-ce que c'est que ton royaume vienne? Est-ce que c'est vraiment ça? Vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier, envieux, vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Je ne sais pas si, lorsqu'il écrivait ça, si, de façon métaphorique, j'imaginerais qu'il parlait des conflits, pas seulement le fait de tuer quelqu'un, mais des luttes entre personnes. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Nous pouvons demander dans une mauvaise motivation, dans le but de satisfaire vos passions. Qu'est-ce qui nous motive vraiment? Qu'est-ce qui nous motive dans la vie? Adultère que vous êtes, où est notre concentration, notre point de mire? La vraie voie de Dieu, ou est-ce que dans nos esprits, est-ce que nous permettons à d'autres choses de venir? Où il y a un adultère spirituel qui arrive. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est d'intimité contre Dieu? Nous allons revenir à ça. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Est-ce que nous croyons que c'est en vain? C'est comme ça, c'est la réalité. Il y a ces deux choses qui se passent. La voix de Dieu ou l'autre voix, la voix de Dieu par son esprit ou la voix de la nature humaine. Verset 6, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Est-ce que nos esprits sont vraiment fixés sur ce qui est important? Sentez votre misère, soyez dans le deuil. Le peuple de Dieu a de la joie, mais il y a aussi cet élément dont nous allons parler dans un instant, de sentir notre misère, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Donc, il leur donne cette direction en parlant à cette verset 13. Vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Moi, je vais faire tout ça et je m'en réjouis. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce qui est notre vie? Quelles sont nos vies? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire le bien et ne le fait pas, il commet un péché. Et il continue même dans le chapitre 5 de parler de cet état d'esprit, un mauvais état d'esprit. Verset 5, le chapitre 5. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas existé. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, ça c'est notre point de mire. Hein? Nous sommes patients. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. C'est là où nos cœurs doivent être établis. Surtout en regardant, considérant la nature temporaire de notre vie. Le juge est à la porte. Considérez les prophètes, ce qu'ils ont fait. Prenez, mes frères, pour modèle les souffrances de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Alors, en réfléchissant à cela, posons-nous la question. En nous examinant profondément ce qui nous motive dans nos pensées, dans nos prières, est-ce que c'est vraiment pour que son royaume vienne? Je veux venir prendre une autre approche maintenant, en transition vers un autre point. Comment cette idée se faufile dans l'esprit des membres de l'Église, en particulier nous autres aux États-Unis? Nous pourrions l'appeler le facteur anglo-saxon selon la prophétie. Le facteur anglo-saxon selon la prophétie. Je parle de quoi là quand je dis ça? Quelle a été la promesse que Dieu a faite à Manassé? À Manassé, par l'intermédiaire de Jacob, Éphraïm a reçu qu'il allait devenir une multitude de nations. Et nous l'avons vu à Grande-Bretagne, son empire. Mais cette autre promesse, qui était en fait l'aîné, nous savons ce qui était cette promesse. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand. Quelle est la nation la plus grande, plus imposante dans le monde aujourd'hui? Je pense qu'on peut dire qu'actuellement, il n'y a pas d'autre nation plus imposante ou plus puissante sur la scène mondiale que les États-Unis dans la société actuelle. Et le peuple de Dieu le connaît. C'est une vérité précieuse qu'on nous a transmise. Nous qui sommes aux États-Unis, nous, les membres de l'Église, nous le comprenons. Nous avons reçu des bénédictions de Dieu de pouvoir comprendre ces clés pour comprendre la prophétie biblique. Nous voyons comment cela se manifeste. Et nous le voyons dans ces derniers jours, comme Genèse chapitre 49 a dit. Je vais vous dire ce qui va arriver dans les derniers jours. Et nous voyons à travers Genèse 48, la compagnie de nations que l'Angleterre a été et est en partie encore. Et maintenant, nous avons une grande nation. Nous voyons cela en train de se manifester. Nous vivons dans ce pays, membres de l'Église de Dieu qui vivent aux États-Unis. Et nous apprécions beaucoup les bénédictions que Dieu a promises au fils de Joseph. Nous entendons des gens en parler à la radio. Nous pouvons lire des commentaires. Nous le voyons dans les nouvelles. Non pas qu'ils parlent de Manassé, mais nous voyons différents individus qui parlent de l'influence des États-Unis et sa grandeur et ce que nous devons faire en tant que nation afin de continuer d'être grand et influent dans le monde. Nous entendons des analyses et nous avons nos points de vue. Nous comprenons les raisons pour lesquelles c'est un pays, un grand pays. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est agréable d'entendre des analystes politiques, commentateurs, personnalités politiques, quand ils partagent notre point de vue à propos de l'influence des États-Unis. Nous l'avons vu. Dieu n'a pas dit, vous êtes une grande nation. Il a dit, je vais faire de vous une grande nation à cause des promesses que j'ai faites. Ceci est critique à comprendre. Nous comprenons ceci, mais leur point de vue, des commentateurs, des analystes du monde, quand ils parlent des États-Unis et ce qu'ils doivent faire, leur point de vue concernant la direction que l'Amérique doit prendre, et notre point de vue, de désir de voir venir le royaume de Dieu sur terre et que Dieu hâtera ce moment, ces deux points de vue s'opposent, sont en conflit. Ces deux points de vue s'opposent. Ils sont en conflit. Alors, où se trouve notre citoyenneté? Où se trouve notre citoyenneté? La compréhension biblique des États-Unis et Grande-Bretagne et du Commonwealth dans la prophétie va dans une direction différente. Alors que nous approchons du retour de Christ, le christianisme traditionnel suit l'une de trois philosophies concernant le millénaire. Le millénium. Vous le savez probablement, certains dans le christianisme et post-millénarisme que nous passons à travers 1000 ans, et pendant ces 1000 ans, différents pays, avec l'influence de Dieu, ils commencent à exercer leur force, leur influence dans un sens positif, et à la fin des 1000 ans, alors Christ revient. Ça, c'est post-millénarisme. Nous n'enseignons pas cela. Il y a amillénarisme, qui veut dire vraiment, c'est simplement métaphore, il n'y a pas vraiment de millénium, et que, de façon ultime, tout cela va changer. Et puis, il y a pré-millénarisme, et nous tomberions dans cette catégorie-là, qui veut dire qu'avant le début du millénium, Jésus-Christ va revenir. Et c'est lui qui commence le millénium. Beaucoup de ces d'autres personnes qui sont pré-millénaristes, ils ont des points de vue étranges. Ils ont des points de vue bizarres parce qu'ils ne comprennent pas les États-Unis et l'Angleterre en prophétie. Un individu qui a une émission radiophonique localement, le ministère de la fin de l'ère, il parle d'événements qui vont arriver avant le retour de Christ. Et il parle beaucoup de prophéties, mais sans croyance, c'est que... Et c'est une croyance assez répandue, c'est que l'Amérique, c'est l'aigle dans la prophétie. Et l'Amérique sera aux côtés d'Israël, la nation moderne d'Israël. L'Amérique sera aux côtés d'Israël, combattant contre le pouvoir de la bête au retour de Christ. Et que Christ arrive pour détruire le pouvoir de la bête. C'est contraire à ce que nous comprenons à cause de notre compréhension des États-Unis et Grande-Bretagne dans la prophétie. Mais pensez à comment leur manque de compréhension de cette doctrine, et ça va changer leur motivation et leur relation avec notre société actuelle. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, si nous ne pensons pas, si nous ne sommes pas au courant et conscients de ce qui se passe autour de nous dans le monde, nous pouvons être tellement emportés par toutes ces choses, ces tendances, que nous pouvons permettre à nos esprits de prendre un chemin qui est contraire du désir pour l'arrivée du royaume de Dieu. Est-ce que nous voulons que la destruction va venir sur les différentes nations et même cette nation, les États-Unis, pour que Christ puisse venir? Non, nous ne voulons pas que les gens souffrent. Mais parce que Dieu nous a donné de son esprit et nous comprenons sa vérité, nous gardons un bon perspective dans tout ça. Et ne permettons pas à ces autres événements ou idées de passer devant ce qui doit être à la première place. Mais qu'est-ce qui s'infiltre dans nos pensées? Et puis, dans ce que nous affichons sur les médias sociaux et les discussions dans lesquelles nous entrons, ce que je veux dire, c'est que la plupart des pré-millénaristes chrétiens voient l'Amérique comme un facteur critique dans l'inauguration du retour du Christ, dans la défense du pays d'Israël. C'est différent, très différent de ce que nous comprenons de la prophétie. Regardons quelques-unes de ces prophéties. Jérémie 30 parle d'une époque d'angoisse pour Jacob. Jérémie chapitre 30, verset 1. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, écrit dans un livre toutes les paroles que j'ai dites. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple Israël et de Juda. Ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. C'est une prophétie double. À partir d'autres passages, nous comprenons que Israël, les nations d'Israël, qui ont été passé au crible fin à travers différentes nations, ils vont aller en captivité. C'est difficile d'être une grande influence dans la lutte contre la puissance de la bête quand la nation a été ramenée en captivité. Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leur père et ils le posséderont. Ce sont les paroles que l'Éternel a prononcées sur Israël et sur Juda. Ainsi, par l'Éternel, nous entendons des cris d'effroi. C'est l'épouvante, ce n'est pas la paix. Informez-vous et regardez si un homme enfante. Pourquoi est-ce que je vois des hommes les mains sur leurs reins, comme une femme au travail? Ça, c'est plutôt la situation des nations d'Israël au retour de Christ. Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Malheur, car ce jour est grand, il n'y a point de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je briserai son joug de dessous ton cou et je romprai tes liens. Des étrangers ne t'assujettiront plus. Ils serviront l'Éternel leur Dieu et David leur roi, que je leur ressusciterai. C'est prophétique, ça parle de David qui sera suscité et qui sera roi. La résurrection n'arrive pas qu'au retour de Christ. Nous savons cela. Ne t'effraie pas, Israël, car je délivrerai de la terre lointaine, je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra. Il jouira du repos et de la tranquillité, et il n'y aura personne pour le troubler, car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. J'exterminerai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé, mais toi, je ne t'exterminerai pas. Qu'est-ce qui arrive à Jacob ici? C'est que Jacob est presque fini. Jacob est au point de disparaître. Mais je châtierai avec équité. Je ne puis pas te laisser impuni. Regardons Osée 9. Je demande à nous tous de réfléchir jusqu'à quel point, en voyant tout ce qui se passe autour de nous, est-ce que nous permettons à cette autre pensée, cette autre optique, philosophie, se glisser dans nos pensées. Je crois que c'est Osée chapitre 9, verset 17. En parlant de la prophétie d'Osée à Israël, « Mon Dieu les rejettera parce qu'ils n'ont pas écouté et ils seront errants parmi les nations. » Chapitre 11, verset 1, il parle de toutes les choses qu'ils ont fait. Verset 6, « L'épée fondra sur leur ville, exterminera, dévorera leur soutien à cause des desseins qu'ils ont eus. Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. » On les rappelle vers le Très-Haut. Mais aucun d'eux ne l'exalte. Que ferai-je de toi, Éphraïm? Que ferai-je de toi, Éphraïm? Que dois-je te livrer, Israël? Je traiterai-je comme Adma? Je suis Dieu et pas un homme.
Then his sons shall come trembling from the west. They shall come trembling like a bird from Egypt.
Ils suivront l'Éternel, qui rugira comme un lion, car il rugira et les enfants accourent de la mer. C'est différent des idées du monde. Amos, chapitre 6. Pensez à ce passage dans Amos 6. En pensant à l'état d'esprit qui existe dans cette nation, aux États-Unis, et qui peut nous affecter si nous le permettons. Amos, chapitre 6, verset 1. Malheur à ceux qui vivent tranquillement dans Sion et en sécurité sur la montagne de Samarie, assez grande de la première des nations, auprès desquelles va la maison d'Israël. Passez à Calné et voyez, allez jusqu'à Hamat la Grande et descendez à Gath chez les Philistins. Les villes sont-elles plus prospères que vos deux royaumes et leur territoire est-il plus étendu que la vôtre? Vous qui croyez éloigner le jour du malheur et vous faites approcher le règne de la violence. Et ensuite, il parle de tous les luxes qu'il y avait. Verset 6. Ils boivent le vin dans de larges coupes et soigne avec la meilleure huile, et il ne s'attriste pas sur la ruine de Joseph. Verset 8, le Seigneur l'Éternel joue par lui-même, L'Éternel, le Dieu des armées, a dit, « J'ai en horreur l'orgueil de Jacob et je hais ses palais. Je livrerai la ville et tout ce qu'elle renferme. » Dieu veut que nous soyons dans le deuil pour l'affliction de Joseph, ceux qui sont vraiment en train de chercher son royaume et sa justice. Que ton royaume vienne. Hâtez le jour de ton avènement. Nous sommes en deuil pour l'affliction de Joseph. Nous voulons que Christ hâte son retour. Nous voulons que Dieu le Père donne le signal à Christ de venir plus tôt que, et pas plus tard. Que ton royaume vienne. Mais pas encore. Mais pas encore. Non. Que ton royaume vienne. Parce que nous voulons être avec Dieu avec une grande intensité. Nous voulons voir la fin des afflictions qui ont lieu, qui sévissent actuellement. Nous pouvons nous laisser entraîner par la rhétorique, le langage des analystes, des chefs religieux, qui pourraient être d'accord avec nous sur certains aspects de notre compréhension biblique, et nous commençons à perdre notre concentration sur que ton règne vienne et quels sont les rôles que nous devons jouer en tant que chrétiens. Regardons aussi le psaume 137. Nous sommes ambassadeurs pour ce royaume à venir. Est-ce que nous sommes capables? Est-ce que nous dévions de cette concentration? Et que nous ne travaillons pas pleinement pour notre chef. Ce passage dans le psaume 137, cantique de Dwight Armstrong, il y a un cantique qui est tiré par les fleuves de Babylone. C'est également une chanson que j'ai entendue il y a quelques années par Don McLean. Don McLean, un chanteur populaire. Aux États-Unis, tous les Américains connaissent ces chansons, je pense. Un concert, Don McLean a chanté ce cantique et il a fait chanter la foule également. C'était au moment de Yom Kippour. Je ne pense pas qu'il est juif. C'est vraiment une mélodie envoûtante. Vous pouvez trouver ça sur YouTube si vous le voulez. Quand nous pensons à ce passage, j'aimerais lire quelques commentaires d'un livre du préface du Trésor de David par C.H. Spurgeon. Et ces livres m'ont été donnés par M. Ledé, un ancien dans la Nouvelle-Orient. Et je me souviens quand nous a transféré à la Nouvelle-Orient, j'ai téléphoné chez eux pour la première fois. Elle commençait à me parler avec son accent cajun et je ne comprenais presque rien. Je ne vais pas pouvoir communiquer avec ces gens, je me disais. J'ai pu finalement décoder cet accent. Nous avions un autre ancien qui a appelé son nom A-V-E-N-T. Et j'ai rencontré cet homme A-V-E-N-T. Comment est-ce qu'on prononce ça? J'ai téléphoné à quelqu'un de la congrégation pour demander comment je devais le prononcer. Et il disait quelque chose comme « au vent ». Et quand j'ai téléphoné à cet individu pour faire sa connaissance, j'ai dit « comment est-ce que vous prononcez, comment vous prononcez votre nom ?» Et il a dit « non, c'est Event ». Certaines parmi les luttes que j'ai dû affronter à la Nouvelle-Orléans, c'était vraiment des gens magnifiques et j'ai beaucoup apprécié travailler là. Mais M. Ledé m'a donné ses commentaires et je les apprécie. Voilà ce que C.H. Spurgeon dit.
Il
Cette ode, c'est parmi les plus charmants de toutes les psaumes pour sa puissance poétique. Si ce n'était pas inspiré, même si ce n'était pas inspiré par Dieu, il y aura une grande place dans la poésie. Surtout la première partie, qui est tendre et patriotique au plus haut degré. Dans les versets vers la fin, 7, 8 et 9, nous avons une indignation contre les adversaires d'Israël, une indignation juste, aussi juste que fervente. Ils avaient vu leur temple brûlé, leur ville détruite, leurs femmes violées, leurs enfants tués. Ils ne condamneraient pas ce psaume. C'est une chose de parler du sentiment d'amertume pour les enfants d'Israël et autre chose c'était vraiment des barbares contre les innocents. Ce cantique pourrait être chanté au mur occidental. C'est un fruit de la captivité en Babylone et c'est une expression de deuil très efficace. C'est un cantique. Alors, cela à l'esprit, lisons le psaume 137. Pensons à nos vies maintenant, des étrangers. Nous attendons l'établissement de Sion. Est-ce que cela reflète la direction de nos pensées? Est-ce que c'est le cas de soupir et gémir pour les abominations en Israël, le monde entier, se trouvant dans la servitude à Babylone, mystère Babylone la Grande? Où sont nos esprits? Verset 1. Sur les bords du fleuve de Babylone, nous étions assis et nous pleurions et nous nous souvenons de Sion. Ceux qui étaient en captivité, qui avaient survécu, qui avaient vu la dévastation. Au sol de la contrée, nous avons suspendu nos harpes. Comment pouvons-nous jouer, chanter? Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion, esclaves. Chantez-nous, divertissez-nous. Chantez-nous un cantique. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais. Si je me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Et pensons-nous comme cela de Jérusalem que Jésus établira? Éternel, souviens-toi des enfants d'Adam, oui, dans la journée de Jérusalem, qui disait rasé, rasé jusqu'à ses fondations. Fille de Babylone, la dévastée, heureux. Fille de Babylone, la dévastée. Quand nous pensons au Babylone, pensons du point de vue de le Dieu de ce monde qui règne sur ce système, qui est le Dieu de ce siècle. Nous nous souvenons de Sion en pensant à ce qui est vraiment important. Fille de Babylone, la dévastée, heureux qui te rend le pareil, le mal que tu nous as fait, heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. C'est dur, ce langage. Mais pensons à cela d'un point de vue d'Israël spirituel. Nous anticipons tellement le moment quand Jésus-Christ viendra et qu'il détruira les armées de Satan, le pouvoir de Satan, qui est sur cette terre depuis 6000 ans. Nous languissons pour cette époque, pour cet événement. Et nous savons que tous ceux qui vont mourir maintenant à cette époque, ils vont avoir leur occasion aussi dans la résurrection de venir. à Dieu. Mais nous anticipons cette destruction. Apocalypse chapitre 18, verset 5. En parlant de la chute de Babylone, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. C'est ce que le peuple de Dieu pense en voyant ce système qu'on a besoin de remplacer. Et nous disons à Dieu, hâte ce jour, le retour de Christ. Sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle a dit dans son cœur, « Je suis assise en reine, je ne suis point veuve, je ne verrai point le deuil. » À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil, la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Ça, c'est le Dieu que nous servons. Un Dieu qui anticipe le moment quand, dans sa colère juste, il pourrait détruire Satan et ses influences sur l'humanité, sur la terre. Et il pourrait établir quelque chose de beaucoup mieux. Alors, frères et sœurs, quelle est notre résolution à travers cette pandémie? Est-ce que Matthieu 6, 33 demeure notre première priorité? Que ton rayon vienne? Est-ce que ce désir a vraiment était votre première priorité? Est-ce que c'est le cas pour moi? Je me pose la question aussi. Dans le sport, il y a une grande chose, une grande idée, c'est de fortifier, de renforcer les muscles qui stabilisent le corps, dans le dos, dans autour de la taille, qui nous donne la mobilité. Et quand ce cœur est fort et flexible, alors tout ce qui sort de ce corps, ce qui sort du cœur, c'est le reste du corps. Je travaille sur les muscles du cœur. Comme nous avons entendu dans la musique spéciale, j'aime aussi la musique de Stan Getz, la musique de 1950 et 60. Du saxophone, comme Sergio Mendez, j'aime bien. Et il joue le samba et la bossa nova. Et avec ma taille qui est un peu coincée, je n'arrive pas à le faire. Ça ne vient pas. Je dois travailler sur la flexibilité et la force des muscles du cœur. Mais pensez à cela. Pensez à cela concernant le royaume de Dieu. Où est notre cœur? Où est notre fort intérieur en tant qu'individu? Est-ce que nos pensées se tournent vraiment vers le royaume de Dieu? Vraiment? Est-ce que c'est vraiment là? Jean chapitre 21, pour conclure. Jésus-Christ a donné à ses disciples et il nous donne aussi la clé. Alors que eux, ils allaient vers la Pentecôte et que nous allons vers la Pentecôte. Jean 21, verset 18. En vérité, je te le dis, en parlant à Pierre, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Il avait sa vie. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te saindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il a dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Pierre, s'étant retourné, vint auprès d'eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, avait penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et à celui-ci, Seigneur, que lui arrive-t-il ? » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit courait parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point. Mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses, qui les a écrites. et nous savons que son témoignage est vrai. Et puis, il parle de toutes les autres choses que Jésus a dit. Il a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le livre même, Écriture du monde, pourrait être écrit. Actes chapitre 1, verset 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert et leur apparut vivant, et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. C'était ce que Jésus-Christ avait à l'esprit quand il a donné ses dernières instructions. Verset 11. « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui était enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Il revient. Il revient. Alors, n'ayons pas l'attitude de « que ton rayon vienne vraiment ». Non, « que ton rayon vienne vraiment ».